le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et nous sommes toujours en direct du congrès HLM de l'Union sociale de l'habitat, un événement fédérateur pour les acteurs économiques et sociaux de l'habitat social. Et dans ce cadre-là, j'ai le plaisir de recevoir tout de suite Sylvain Mathieu. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Vous êtes délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement. Donc vous dirigez le DIAL.
Est-ce que
vous pouvez...
La DIAL,
excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la DIAL ?
Alors la DIAL, au départ, elle a été créée en 2010. Avec l'idée qu'il fallait faire le pont entre tout ce qui était l'hébergement, qui était à l'époque suivi par la Direction Générale de la Cohésion Sociale, et puis l'accès au logement, avec la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages. Ceci a évolué, et aujourd'hui, la DIAL, c'est un peu plus de 60 personnes. Au départ, c'était une dizaine de personnes. Et le pont, aujourd'hui, s'est transformé en véritable démarche-projet, puisque... La DIAL, depuis le 1er janvier 2021, rassemble en fait l'ensemble des compétences qui ont trait au logement d'abord, à la question de la rue au logement. Ça veut dire aussi du monde, mais également un budget, 2,9 milliards, dont la DIAL est responsable sous l'autorité d'Emmanuel Wargon.
Bon, qui est un budget évidemment qu'il faut bien utiliser.
Ah oui,
d'accord.
Bien utilisé.
Alors est-ce qu'il est bien utilisé justement ?
C'est un principe pour l'argent public, il
faut
bien l'utiliser.
Exactement. Alors justement, est-ce qu'il est bien utilisé et dans quoi il est passé justement cet argent ?
Alors, les 2,9 milliards en fait servent pour une part à héberger les personnes qui sont sans domicile fixe ou qui sont sans abri. Une autre part est consacrée au logement adapté, à l'accompagnement et à un certain nombre de mesures sociales et puis évidemment à tout ce qui concerne la veille et les maraudes par exemple et les services intégrés d'accueil et d'orientation qu'on connaît, c'est le fameux 115.
Oui.
Donc ce budget, il est là notamment pour financer 200 000 places chaque jour pour héberger les personnes sans domicile fixe. Alors la DIAL ne fait pas que ça. La DIAL, elle est également chargée, au-delà du logement d'abord, de tout ce qui est la prévention des expulsions locatives. Nous nous occupons également de la question des migrants et plus particulièrement du logement des réfugiés.
Donc des sujets très lourds et très importants au niveau national.
Oui, nos journées sont bien occupées, mais tout ça a du sens. C'est quelque chose d'assez enthousiasmant de voir qu'il y a un effet direct sur la vie des personnes. C'est quelque chose vraiment qui anime très fortement les personnes qui sont à la DIAL. Elles trouvent du sens dans leur travail. On est vraiment dans quelque chose de très collectif. Et même notre manière de faire, elle est très adaptée en fait à la démarche projet qui est la nôtre. Il y a très peu de niveau hiérarchique à la DIAL, c'est très fluide, c'est très réactif. Et moi, c'est une ambiance que j'aime parce que j'ai le sentiment qu'on fait collectivement le meilleur travail possible.
Alors Sylvain Mathieu, pardonnez-moi pour ces questions qui vont peut-être vous embêter, mais j'ai envie de vous embêter un petit peu.
Je vous en prie. Les questions embêtantes sont souvent les plus pertinentes.
Alors c'est gentil. Comment est-ce que vous expliquez qu'avec un budget aussi conséquent, qui a été a priori bien utilisé, qu'on constate en tout cas qu'il y a de plus en plus de gens dans la rue et que quand on a envie d'appeler le 115, on n'arrive pas à les joindre ?
Alors,
et qu'on n'arrive jamais à trouver une place pour les gens qu'on a envie d'aider nous-mêmes, citoyens, quand on rencontre quelqu'un dans la rue.
Alors oui et non. Hein. J'ai quelques nuances par rapport à ce que vous venez de dire.
Alors dites-moi. Vous avez vu, je vous embête.
Ouais, oui. Alors d'abord, il faut avoir bien conscience qu'avec 200 000 places, évidemment, on permet d'héberger un nombre extrêmement important de personnes, mais qu'il y a encore beaucoup de situations qui sont... très difficile. Par exemple, des ménages qui sont hébergés chez des tiers. Ça tient un moment.
Oui, et puis après, évidemment.
Et ensuite, ça peut casser. C'est clair que quand vous proposez de l'hébergement, bien, c'est des ménages qui peuvent trouver une solution où ils vont être pris en charge. Donc, il faut toujours bien se dire qu'on est à un niveau de place qui correspond à peu près à ce qu'on voit, à ce qu'on est capable de faire, mais il y a derrière aussi tout un tas de personnes qui sont très fragilisées, qui peuvent à un moment donné basculer. Sur les personnes à la rue, c'est pour ça que je disais oui et non. Moi, c'est évidemment toujours un crève-cœur.
Mais oui, évidemment, pour nous tous. Hein,
ouais, de voir,
sauf pour ceux qui n'ont pas de cœur, mais
c'est vrai qu'on
a tous envie de les aider, mais
c'est
compliqué.
La plupart, voilà, de voir toutes ces situations. Bon, ça a plutôt diminué.
D'accord.
Ça a plutôt diminué et ça a changé de nature. Alors, ce sont des questions compliquées parce qu'on n'a pas nécessairement une vision extrêmement fine de cette situation. On a les Nuits de la Solidarité, notamment celle qui est organisée à Paris. Emmanuel Wargon a lancé une journée nationale qui va avoir lieu en janvier,
oui,
où on va pouvoir recueillir beaucoup d'éléments. Mais on n'a pas un nombre exact, par exemple, de personnes à la rue. On suppose que...
Mais on sait, par exemple, s'il y a plus d'hommes, plus de femmes, plus de familles.
Ah oui, il y a plus d'hommes.
Ah, il y a plus d'hommes dans la rue que de femmes dans la rue. Et pourtant, on en voit beaucoup des femmes, de plus en plus. Hein.
Alors, c'est un phénomène assez nouveau,
qui
date de quelques années,
c'est
avec des femmes qui sont à la rue. Il y a un effet des flux migratoires extrêmement important par rapport à cette présence à la rue. C'est pour ça que ça a changé de nature aussi. Souvent, on a une représentation des personnes à la rue qui correspondent à ce qu'on appelait, le terme est suranné bien sûr, mais ce qu'on appelait les clochards dans les années 80-90, c'est-à-dire des gens qui étaient désocialisés.
Oui.
Là maintenant, on a beaucoup de personnes qui sont dans une démarche migrante, dans une démarche migratoire. On a aussi toujours des personnes qui sont en rupture, dans un conflit familial,
un divorce, une séparation,
sont fragilisés. On a évidemment des personnes qui sont des travailleurs pauvres. La société, de mon point de vue, elle est devenue plus difficile aussi pour toutes les personnes qui sont borders, qui sont en limite et où le moindre coût peut les...
Ça veut dire que les pauvres deviennent encore plus pauvres, peut-être aussi.
Le challenge, c'est quand même d'apporter une réponse. C'est-à-dire que... On a l'habitude de dire qu'il faut vraiment, lorsqu'il y a cette rupture, que la puissance publique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est l'État, mais c'est aussi les collectivités territoriales, ce sont les associations qui font un travail là-dessus.
Ah, formidable.
Il faut absolument financer par l'État.
Oui.
Beaucoup.
Oui.
Ce qui n'empêche pas que le travail soit formidable, mais il faut rappeler que l'État, il est le principal financeur sur les associations qui travaillent sur ce domaine. Donc, en tous les cas, pour nous, le défi, c'est d'être présent, si possible avant, et d'éviter les ruptures. Mais quand la rupture elle a lieu, c'est d'être présent au moment pour éviter absolument ce passage à la rue. Le passage à la rue, il est dramatique.
C'est sûr.
Il casse les personnes. Donc, toutes ces places d'hébergement, elles sont aussi là pour offrir une alternative. Ça n'est pas satisfaisant, parce que justement, le plan logement d'abord qui a été lancé en 2017, c'est un plan qui vise à permettre l'accès au logement le plus rapidement possible. Mmh. Et c'est vraiment ça qu'on cherche.
Alors justement, en 2017 a été lancé le plan pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme. Quelles sont les retombées que vous avez 5 ans après sur l'échelle nationale?
Alors on avait beaucoup d'objectifs. Le plan, c'est une déclinaison d'actions comme d'habitude, mais on peut se centrer sur un certain nombre de points précis.
Oui, s'il vous plaît.
D'abord, notre objectif, c'était évidemment de permettre un accès au logement le plus rapide possible. Sur ce plan, entre le 1er janvier 2018 et fin juin 2021, au moins 280 000 personnes sont sorties de la rue ou de l'hébergement vers le logement. C'est énorme.
Donc fixe, vous voulez dire?
Absolument.
Un vrai logement,
où on a une clé et on peut rentrer chez soi.
Je comprends.
Et donc, ce chiffre, il est très important, mais il a une double facette. Il a une double facette parce que on voit bien que l'effort, il a considérablement augmenté.
Oui.
Mais pour autant, les problèmes persistent et parfois s'aggravent sur un certain nombre de territoires. Donc, on voit bien cet effet à la fois des questions de plus grande pauvreté, en tous les cas de fragilité des personnes, mais également les aspects des flux de migrants qui peuvent aussi alimenter notamment les personnes qui sont sans abri, on le voit régulièrement. Donc, c'est un chiffre qui représente vraiment un effort énorme. Jamais on n'avait atteint un tel chiffre. C'est considérable. Pour autant, vous voyez, ça nous marque également ce qui est en train de se passer. Autre chiffre significatif, c'est que parmi ces 280 000 personnes, 174 000 sont allées dans le logement social. Alors ça montre, on est aussi au congrès HLM.
Et oui.
Et je l'ai dit ce matin en plénière, ça montre que le mouvement HLM est une chance pour la France. C'est une chance aussi pour les personnes qui sont en grande difficulté. Mais ça montre aussi qu'on agit également sur le privé. Et ça, c'était un de nos objectifs. Oui. C'est d'utiliser le privé à des fins sociales. Et ça, avec l'intermédiation locative, notamment, on a réussi chaque année à augmenter de 10 000 places le nombre de personnes, pour des personnes qui viennent dans du logement privé, soutenu avec le soutien des bailleurs, et on finance également les bailleurs. Et ça, c'est un élément qui permet d'élargir aussi les possibilités. L'autre point qui était important pour nous, ce sont les pensions de famille. Les pensions de famille, c'est un excellent produit qui permet à des personnes seules, isolées, qui sont désocialisées,
oui,
qui ont des problèmes en tous les cas de socialisation, d'être dans un vrai logement sans limite. Et ça, les pensions de famille, on a un objectif de 10 000 et on a réussi, là aussi, à engager un mouvement assez fort. On n'est pas exactement au niveau qu'on voulait,
oui,
mais ça s'accélère. Tout à l'heure, je signerai une convention à NetCity, qui est une prolongation d'ailleurs, et qui montre bien que, y compris des acteurs comme NetCity Non Profit, sont engagés dans cette lutte contre le sans-abrisme.
Alors justement, vous disiez tout à l'heure qu'on parlait justement de crise migratoire ou d'afflux migratoire. Alors l'Europe est confrontée, hein, on le sait, depuis ces dernières années, à d'importantes arrivées de personnes migrantes, hein, sollicitant justement une protection internationale. On parle de la France, donc protection nationale. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il y a trop de migrants en France ?
Je réponds que, de toute façon, la France, elle a toujours eu une notion d'accueil, et que les personnes qui fuient des zones ravagées par la guerre et qui sont en grande difficulté peuvent venir dans notre pays et demander l'asile et obtenir ce qu'on appelle le statut de réfugié, en fait, qui est de bénéficiaire de la protection internationale. Donc, nous ne sommes pas un pays fermé. Nous sommes aussi un pays qui s'alimente de personnes qui sont venues à un moment donné en France et qui contribuent aussi à la fois à notre diversité et puis à une richesse d'approche. Ce que je disais également ce matin, c'est que tout ce qui est fait en termes de logement social,
oui,
c'est pas... Bien, évidemment, il y a une vocation humaniste, mais on construit l'avenir. On construit l'avenir des territoires, on construit l'avenir avec des jeunes qui vont trouver une stabilité, qui vont trouver une capacité d'insertion et qui vont participer aussi à la dynamique de la France. Donc il y a là quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Je pense qu'on a également une chance dans la réponse qu'on a à l'ensemble des personnes qui sont en difficulté. Il s'agit de faire société, il s'agit aussi d'avoir une société apaisée. Et je pense que la question du logement d'abord, le service public de la rue au logement, oui, qui a été lancé depuis le 1er janvier, sont des éléments qui contribuent à cette construction d'avenir du pays.
Alors, pour finir, Sylvain Mathieu, quels sont les prochains objectifs pour vous, en tout cas les plus urgents de la DIAL ?
Oh là !
Eh oui, je sais, vous avez du boulot, mais il faut commencer par les priorités.
Alors,
tout est prioritaire pour
d'abord,
vous ?
D'abord, ici, on est au congrès HLM, c'est oui, clair que on souhaite vraiment qu'il y ait un effort considérable qui soit fait en termes de nouveaux logements, de logements sociaux.
Oui.
Et la ministre Emmanuelle Wargon...
qui viendra sur notre plateau d'ailleurs.
Voilà, très bien, qui a passé un accord pour un objectif de 250 000 logements sur 2 ans, dont 90 000 PLAI, c'est ceux qui sont les plus abordables. Ben, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Aujourd'hui, de mon point de vue, ce n'est pas un problème de financement.
Oui.
Je pense que c'est un problème, la commission Rebsamen le dit bien d'ailleurs, c'est un problème d'accord politique, de volonté de faire. C'est pour ça que je parle du fait que le logement social, il est pris dans un territoire et qu'il participe à la richesse de ce territoire. Il faut vraiment que l'ensemble des élus considèrent le logement social comme une forme de richesse. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi. Bien sûr, il faut travailler à la mixité. Mais répondre aux personnes en difficulté sur son territoire, c'est extrêmement important. Il était rappelé par Marianne Louis ce matin un élément chiffré qui résultait des études de l'USH. Oui. 84% des gens qui accèdent au logement social, qui sont demandeurs de logements sociaux, sont sur le territoire de l'EPCI concerné. Voilà, ce sont les habitants du lieu qui sont en première approche concernés. Donc voilà, il faut construire du logement. L'autre point, c'est évidemment d'améliorer la qualité générale de l'hébergement. de permettre cette transformation, on utilise trop l'hôtel. Trop l'hôtel, et donc il faut qu'on puisse faire ces modifications, faire ces transferts de façon à ce qu'aujourd'hui on ait une réponse en termes d'hébergement qui soit plus qualitatif. Puis dernière chose, c'est vraiment, je vous fais une priorité parce que je pourrais durer deux heures là-dessus. C'est la question de l'accompagnement.
Oui.
L'accompagnement, c'est vraiment le point clé. Si on veut pouvoir réaliser véritablement une insertion, pour les personnes qui en ont besoin, il faut les accompagner. Il ne faut pas laisser les bailleurs tout seuls face à la pauvreté ou aux difficultés, des fois, d'occupation. Il faut qu'il y ait de l'accompagnement. Et de ce point de vue-là, on va lancer une réforme des SIAO, les services intégrés d'accueil et d'orientation,
oui.
Le 115 pour faire vite. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est le 115. De façon à ce que l'ensemble des parties prenantes, les collectivités territoriales, les bailleurs, l'État, bien sûr, les associations, y soient, et qu'à travers des plateformes d'accompagnement, notamment, on puisse mieux se coordonner pour répondre à la demande.
Bon, en tout cas, les messages les plus importants sont passés. Merci beaucoup, Sylvain Mathieu, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le 81e Congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.